Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 24 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Sébilia. Pour commencer, les titres. Remaniement ministériel en RDC, l'ex-vice-président et ex-chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, à la Défense, et Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, à l'économie. Le Mali questionne la crédibilité d'un rapport de l'ONU sur des exactions. En Guinée équatoriale, 7 morts confirmés et 20 autres probablement dus à Marbourg, annonce l'OMS. Washington mène des frappes en Syrie après la mort d'un Américain dans une attaque au drone. TikTok sur la sellette au Congrès américain alors que la plateforme est menacée d'interdiction totale aux États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En RDC, un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, maintenant en fonction le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, mais redessinant l'équipe ministérielle à 9 mois de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain, Michel Joseph.
Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la Défense l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Ex-chef de guerre, M. Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la CPI, la Cour pénale internationale, pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense, alors que la RDC, aux prises avec des violences armées depuis près de 30 ans dans sa partie orientale, connaît un pic de tension avec son voisin, le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l'année dernière de larges pans de la province du Nord Kivu. Autre retour en grâce, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022, est nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Un remaniement était présenté comme imminent depuis 3 mois. Après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires, Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle, qui avait quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture avec la coalition au pouvoir.
RDC toujours, un contingent supplémentaire de soldats ougandais sera bientôt déployé dans l'est de la République démocratique du Congo, et cette fois-là dans le cadre de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, aux côtés des Kenyans et des Burundais et des Isango.
Le déploiement se fera avant fin mars, a annoncé les porte-parole d'une délégation de l'armée ougandaise à Goma. Le colonel Mike Walaka indique que les troupes ougandaises envoyées pour cette mission seront basées à Bunagana, Rutshuru, Mabenga et Kiwanja, des localités situées au nord de Goma où les rebelles du M23 se sont emparés des vastes zones depuis l'année dernière, dont la cité de Bunagana, carrefour commercial à la frontière ougandaise. Des soldats kenyans sont aussi déployés dans la zone, mais la population leur reproche de ne pas contraindre les rebelles à se retirer, mais plutôt de cohabiter avec eux. Des Burundais sont aussi déployés en RDC dans les cadres de l'EAC, mais dans les territoires voisins de Massissi, au nord-ouest de Goma, où des accrochages étaient encore signalés hier jeudi. D'autres soldats ougandais sont déjà présents en RDC depuis fin 2021, mais pour des opérations conjointes avec l'armée de la RDC contre des rebelles d'origine ougandaise, les ADF, Forces démocratiques alliées, des opérations qui ont lieu dans la partie nord du Nord Kivu, ainsi que dans la province voisine de l'Ituri.
Au Burkina Faso, des sources sécuritaires et locales ont indiqué hier qu'une dizaine de supplétifs civils et 4 soldats ont été tués mercredi lors d'une attaque à Zorkoum près de Kaya dans le nord du pays, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en visite. Côté ennemi, une 20aine de terroristes ont été neutralisés, a précisé une de ses sources. Les autorités maliennes ont émis des doutes jeudi sur la crédibilité d'un rapport de l'ONU qui a affirmé la veille que le nombre de personnes tuées dans le pays a augmenté de 54% en 2022 et a imputé plus d'un tiers des violations des droits humains à l'armée malienne et à ses alliés. Ce rapport ne donne aucune précision sur les sources de vérification des cas rapportés et ne permet pas au gouvernement de mener au besoin une confrontation et des enquêtes, a assuré le ministère des Affaires étrangères en réponse à une note trimestrielle de l'ONU sur les violations des droits humains entre octobre et décembre 2022. Le bilan de l'épidémie de maladie à virus de Marburg qui sévit depuis plus de 2 mois en Guinée équatoriale s'alourdit à 20 morts, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Malabo a décompté 6 décès de plus en 10 jours. Précision de Jean-Roger Bion.
Les cas recensés de cette fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola ont débordé de la province de Kyentem, où elle avait provoqué les premiers décès connus le 7 janvier, jusqu'à toucher Bata, la capitale économique. À ce jour, on dénombre 20 cas probables et 20 décès, annonce l'OMS, précisant que les nouveaux cas sont signalés dans les provinces de Kyentem, de Littoral et de Centre-Sud, qui ont toutes des frontières internationales avec le Cameroun et le Gabon. Cette expansion laisse supposer une transmission plus large du virus et nécessite d'intensifier les efforts de riposte afin d'éviter une épidémie à grande échelle et des pertes en vies humaines, prévient l'OMS. L'épidémie sévit donc désormais dans 3 des 4 provinces continentales, de l'Est jusqu'à l'océan Atlantique. Les efforts des autorités équato-guinéennes aidées par l'OMS pour contenir le virus dans le Kyentem n'ont donc pas suffi. Des experts supplémentaires de l'OMS seront déployés dans les prochains jours, promet l'organisation onusienne, ajoutant qu'elle aide également le Gabon et le Cameroun à renforcer la préparation et la riposte à l'épidémie. La Tanzanie a annoncé également mardi le début d'une épidémie de Marburg avec 5 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces américaines ont mené des frappes aériennes de précision dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps des gardiens de la révolution iranien, et ce après une attaque de drone qui a tué un Américain et en a blessé 6 autres, a annoncé hier soir le Pentagone. L'attaque au drone a eu lieu jeudi contre une installation de maintenance d'une base près de Asaka dans le nord-est de la Syrie, selon le communiqué du Pentagone. Les services de renseignement américains considèrent que le drone est d'origine iranienne, a ajouté le Pentagone. La personne décédée est un sous-traitant américain et les blessés sont 5 soldats et un autre sous-traitant également américain, selon la même source. Le patron de l'application mobile TikTok, Shu Chou, a fait face jeudi à des élus américains au Congrès des États-Unis. Ces derniers sont remontés à bloc contre la plateforme qu'ils accusent de mettre en danger la sécurité nationale, Mohamed Oumfa.
Le patron singapourien Shu Chu, ancien étudiant de Harvard, a dû s'expliquer au moment où de nombreux gouvernements soupçonnent la plateforme de donner accès aux données des utilisateurs à Pékin. J'imagine que vous allez dire tout ce que vous pouvez aujourd'hui pour éviter ces résultats, a déclaré d'emblée Cathy McNorris Rogers, la présidente de la commission parlementaire de l'énergie et du commerce, qui a convoqué le dirigeant pour une audition. On ne vous croit pas, a-t-elle asséné, précisant que TikTok est redevable au Parti communiste chinois. Le gouvernement chinois ne possède pas et ne contrôle pas ByteDance, la compagnie fondatrice de TikTok. C'est une entreprise privée, a insisté son patron. Je ne crois pas qu'il existe réellement un secteur privé en Chine, a répondu Cathy McNorris, évoquant la loi chinoise qui impose aux entreprises du pays de partager leurs données si Pékin le leur demande. Shu Chu a reconnu que la plateforme a encore d'anciennes données d'utilisateurs américains stockées sur des serveurs accessibles par des employés chinois. Le dirigeant a promis que d'ici la fin de l'année, toutes les informations liées aux 150 millions d'utilisateurs du pays seraient gérées uniquement depuis les serveurs du groupe Texan Oracle situé aux États-Unis.
Les États-Unis ne sont pas prêts à retirer Cuba de leur liste noire des pays soutenant le terrorisme. C'est le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui l'affirme. Nous ne prévoyons pas de les retirer de la liste, a déclaré M. Blinken, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, dominée par l'opposition républicaine. Il répondait donc à une élue républicaine pour savoir si Cuba avait pris des mesures permettant d'envisager de retirer le pays de cette liste noire. La Corée du Nord a affirmé vendredi avoir testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin capable de déclencher un tsunami radioactif, tout en accusant les exercices militaires américano-sud-coréens d'être à l'origine de la détérioration de la sécurité régionale. Minute Éco, Nathalie Barge.
La plateforme panafricaine de commerce en ligne Jumia a signé un accord avec l'enseigne française Leroy Merlin pour écouler ses produits en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les zones visées sont les petites villes et les marchés ruraux à forte croissance où l'économie repose sur l'agriculture. L'entreprise envisage d'étendre ce modèle au Kenya, au Nigeria et au Ghana. Jumia a enregistré une perte de 49 millions de dollars au quatrième trimestre 2022 et a supprimé plus de 900 emplois. En Égypte, la compagnie pétrolière United Oil and Gas a mis en service le puits de développement H8 sur la concession d'Abou Senan opérée par Koweït Energy. Les travaux de forage ont débouché sur une réserve riche en hydrocarbures dans le réservoir d'Alam El Boueb à 4000 mètres de profondeur. De nouveaux forages sont prévus, notamment au puits de développement ASD3. L'Afrique du Sud risque de connaître une croissance économique nulle cette année, selon le FMI, qui a effectué une mission dans le pays. La croissance du PIB devrait atteindre seulement 0,1% en raison d'une augmentation de l'intensité des coupures d'électricité, estime le fonds. Le PIB s'est contracté de 1,3% au dernier trimestre 2022. Et le pays risque d'entrer en récession au second trimestre 2023. Selon le ministère de l'Énergie, les délestages coûtent 50 millions de dollars par jour en perte de production.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les équipes africaines sont sur la brèche avec les éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, plein de matchs au programme ce vendredi pour le compte de la troisième journée. Mal embarqué avec 0 points à 2 sorties. La République démocratique du Congo veut se relancer face à la Mauritanie. La Côte d'Ivoire fait face aux Comores au stade de la paix de Bouaké. À suivre aussi Nigeria, Guinée-Bissau, Sénégal, Mozambique, Cameroun, Namibie ou encore Guinée. Éthiopie. Le Burkina Faso reçoit le Togo à Marrakech. Le Mali joue la Gambie et justement, des rumeurs relatives à un boycott des matchs par les Aigles avaient circulé. Ces derniers auraient posé comme condition le paiement de leurs primes avant de jouer face aux Scorpions. Joint par téléphone par notre correspondant Bamako Siaka Traoré, le bureau de presse de la Fédération malienne de football a indiqué qu'il n'en est rien, précisant que la question a été résolue. Même son de cloche au ministère chargé des sports, selon Alaye Omar Guindo, chargé de mission, le match aura bel et bien lieu.
Cette troisième journée s'est poursuivie hier jeudi.
La République centrafricaine a battu Madagascar 3-0 pour se relancer dans le groupe E. Le Ghana s'est imposé dans le choc de ce groupe face à l'Angola 1-0 et prend la tête de la poule. Le Soudan du Sud a battu le Congo 2-1. Dans le groupe H, la Zambie a pris la première place grâce à sa victoire 3-1 devant le Lesotho. Dans le groupe I, le Gabon s'est imposé 1-0 face au Soudan, suffisant pour se classer premier avant le match entre la Mauritanie et la RDC. L'Algérie a battu le Niger 2-1 pour prendre le large dans le groupe F avec 9 points en 3 journées.
Ici en NBA, LeBron James travaille sans relâche pour revenir sur les parquets.
C'est ce qu'a affirmé la superstar des Lakers qui soigne une blessure au pied droit depuis plus de 3 semaines. Je travaille tous les jours pour me donner les meilleures chances de revenir en pleine possession de mes moyens, quel que soit le moment où cela se produira, a tweeté LeBron James. ajoutant qu'aucune date n'a été fixée pour son retour à la compétition. Les Lakers avaient annoncé que James, qui s'est blessé au niveau d'un tendon le 26 février à Dallas, avait repris ses activités sur le parquet, notamment une progression par palier de ses mouvements. ESPN et The Athletic ont rapporté que LeBron James pourrait jouer les 3 ou 4 derniers matchs de la saison régulière, cruciaux pour les Lakers dans la lutte pour les playoffs. Actuellement, ils occupent la 10e place dans la conférence Ouest, la dernière du barragiste.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, l'insertion des femmes dans l'arène politique ne reçoit pas l'assentiment de tous, malgré les nombreuses sensibilisations. L'application de la loi votée en 2019 et offrant diverses opportunités aux femmes est confrontée à des pesanteurs socioculturelles. Résultat, les femmes ont du mal à trouver leur place dans le leadership politique. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Les femmes béninoises ont encore du mal à se frayer une voie vers les postes décisionnels. Sur le plan politique, le chemin paraît encore long, même si par l'entremise d'une réforme électorale, la chance leur a été donnée de se positionner. Sur 109 députés élus en janvier 2023, seules 28 sont des femmes, et cela en raison du quota de 24 femmes imposé. Judith Lydia est membre du Bloc républicain, l'un des partis politiques proches du pouvoir. Elle pense que c'est un début prometteur.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État, c'est un homme de parole, nous avons confiance en lui, nous savons que on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit.
Une chose est de voter une loi accordant une place prépondérante à la femme au sein des partis politiques. C'en est une autre pour elle de surmonter les pesanteurs socio-culturelles pour s'impliquer réellement dans le jeu politique. Pour Marielle Degboué, politique et membre de la société civile, il faut que les femmes prennent conscience du rôle qui leur revient dans la gestion de la cité.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup. Le manque d'implication dans les initiatives. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. C'est normal lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes. Nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances.
Difficulté à concilier vie de couple, vie professionnelle et ambition politique. C'est l'argument avancé pour les évincées, mais elles assurent n'avoir aucun mal à s'en sortir, même si cela demande de réels sacrifices.
Ce n'est pas facile de jouer tant de rôles à la fois, mais je crois que la nature elle-même a créé la femme pour jouer tous ces rôles-là.
Si je n'effectue pas une mission quelque part, tous les week-ends, je me retrouve en famille avec les enfants et pour quand même rester auprès d'eux.
Quand je finis mon travail professionnel ou mes activités politiques et que je suis à la maison, je suis totalement une femme. Je ne suis pas femme politique à la maison.
Dans le milieu professionnel, on est bien loin de la mobilisation escomptée. Les hommes ont encore du mal à accepter et recevoir des ordres venant d'une femme. C'est Nalia Klago, rédactrice en chef dans une radio privée de la place. Pour elle, le combat est quotidien.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère.
Pour Michel Zocli, ingénieur agronome, les femmes n'ont rien à faire en politique ou au poste de décision. Selon lui, le Bénin est une société traditionnelle et la place de la femme se trouve à la maison auprès des enfants qu'elle doit éduquer.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison, elles désertent le foyer. Or, en réalité, la femme devrait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants.
Une vision à compte courant de l'opinion des législateurs béninois qui jugent la femme tout autant capable que l'homme dans tous les domaines d'activité. Et selon le sociologue Mouleiro Amouzouvi, avec les défis du monde actuel, les gouvernants ont le devoir de donner aux femmes leur chance de prouver ce dont elles sont capables.
Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme.
De côté où je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Une professeure d'université ayant fui la violence séparatiste au Cameroun est maintenant en Californie, partageant avec ses étudiants l'impact du conflit armé sur l'environnement et sur les femmes. Davantage avec Gina Dulo de Santa Barbara, le récit est de Ginny Nua.
Elisabeth Aouketang prépare un plat traditionnel à base d'héros et de farine d'igname pour son dîner en famille. Ils sont loin de leur dernière maison à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, où Aouketang a dirigé le département d'anglais de l'université. Ce travail a fait d'elle une cible dans le conflit entre les séparatistes anglophones et les forces gouvernementales dans ce pays d'Afrique centrale majoritairement francophone.
Ayant beaucoup de menaces d'appels téléphoniques me menaçant et disant si vous continuez à enseigner, ils viendront vous chercher, surtout en tant que directrice du département.
Elle a reçu une balle au poignet en 2019. Son mari a été kidnappé deux fois. Élevant des enfants dans cette instabilité, leur vie a changé lors d'un appel de mentorat virtuel avec le professeur Kum Kum Banani de l'Université de Californie. Un jour, j'ai entendu beaucoup de bruit. J'entendais à peine Elisabeth. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bruit? Et puis, quand elle m'a dit, oh, ce sont des coups de feu. Comment ça, ce sont des coups de feu? Eh bien, il y a une guerre civile ici. Banani a aidé Aouketang à postuler au Scholar Rescue Fund de l'Institute of International Education, qui parraine des bourses pour les universitaires menacés et déplacés dans les établissements partenaires du monde entier. Elle et sa famille sont venues ici à l'Université de Californie à Santa Barbara, où ses conférences se concentrent sur le militarisme et les dommages que les conflits armés infligent à l'environnement et aux femmes.
Les femmes sont les mères de ces enfants soldats parce que vous avez de jeunes enfants de 9 à 16 ans, voire 18 ou 20 ans, qui sont tous recrutés dans l'armée de ces sécessionnistes et même dans l'armée d'État. Les femmes sont les mères de tous ces militaires qui se battent et se font tuer. Les femmes sont les épouses des maris qui sont kidnappés en plus d'être tuées. Des femmes sont violées.
Aouketang explique que quitter la zone de conflit au Cameroun lui a permis de terminer un nouveau livre de poésie.
Walk with me. Marche avec moi. Des villages paisibles maintenant laissés en fumée, gravés par un labyrinthe de balles. Nagasaki encore. Cette fois, 50 000 vies ont été perdues en 5 ans dans le Nozo, nord-ouest, sud-ouest.
Ici aux États-Unis, la Fed ou Banque centrale a relevé mercredi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage. Elle a par ailleurs averti que la récente crise des banques était susceptible de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation. La décision de la Fed recherche l'équilibre entre sa lutte contre l'inflation et les turbulences sur le secteur bancaire. Pour parler de son impact, Eric Manirakidza a joint le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de la Lafayette Group.
Pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, considérant les alternatives, c'était la meilleure solution.
Quelle est la conséquence de cette décision sur les ménages dans le court terme et sur même l'emploi?
Oui, c'est effectivement l'idée principale du Fed, c'est de limiter les emprunts des ménages, hein, et effectivement de limiter le développement du travail et des emplois aux États-Unis de façon à diminuer la demande pour les produits. Je pense que c'est exactement ce qu'ils essayent de faire.
C'est aussi une décision qui aura des incidences sur l'économie mondiale et notamment ceux qui utilisent le dollar pour s'approvisionner, oui, sur les marchés internationaux.
Ah oui. Absolument, absolument. Ça, c'est, il est certain que ça va sans doute faire augmenter la valeur du dollar et ça va rendre le commerce plus cher pour les pays les plus pauvres, en particulier les pays en Afrique, qui sont obligés d'acheter leurs commodités et leurs produits en dollars. Donc effectivement, ça va avoir un impact sur l'économie mondiale et sur les pays les plus pauvres en particulier.
Et la Fed prévoit des hausses supplémentaires?
Oui, il y aurait peut-être encore quelques hausses supplémentaires si, comme je le pense, la crise financière disparaît. Je pense qu'effectivement, ils vont vraiment se concentrer avec beaucoup de force sur l'inflation, mais ce sera quand même, à mon avis, des hausses relativement faibles qui vont commencer à diminuer vers la fin de l'année. Ça, je pense que beaucoup de gens pensent ça, en tous les cas.
Une augmentation au compte-gouttes, est-ce qu'elle est moins pire qu'une augmentation en bloc?
Ah oui, certainement. Oui, certainement, parce qu'une augmentation en bloc ferait un choc sur le marché. Et je pense qu'effectivement, il vaut mieux faire l'augmentation petit à petit. Ça permet aux compagnies internationales et aux ménages même de planifier leurs dépenses dans le futur, je pense.
Une forme de perfusion économique.
Oui, c'est ça. Parce que s'il n'avait pas fait la hausse, comme tout le monde l'avait annoncé déjà il y a plusieurs semaines, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait prouvé à tout le monde qu'il y a vraiment une crise difficile. S'il avait fait une hausse plus forte, ça voudrait dire que l'inflation serait vraiment trop grande, donc ça gênerait tout le monde. Donc ils ont fait un chemin entre les deux. Et je pense que c'est une façon de trouver un équilibre. C'est pas extraordinaire, mais c'était la solution la moins mauvaise, je pense.
Joint à Annapolis, dans l'État du Maryland, le professeur Jean-François Seznec. Visite de 24 heures du président Joe Biden au Canada. Il s'agit de la première vraie rencontre bilatérale en personne avec le premier ministre canadien Justin Trudeau depuis 2009, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Pour les enjeux de cette visite, Jean-Roger Bion a joint hier à Ottawa le politologue Serge Bagnonguel de l'Université d'Ottawa.
Côté canadien, il y a cette question de la frontière où justement nous avons de plus en plus d'informations que parce qu'il y a cet accord du tiers pays sud, beaucoup de migrants viennent et surtout par les différentes frontières de manière illégale pour se réfugier au Canada et ça pose un impact énorme sur des provinces comme le Québec qui a d'ailleurs obtenu d'autres provinces comme l'Ontario, Nouveau-Brunswick qu'on puisse utiliser ces gens qui arrivent comme ça. Alors l'idée serait que les États-Unis fassent leur part pour empêcher que justement la frontière canadienne soit très mise à mal comme c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est un enjeu énorme, même à l'intérieur du Canada, parce que justement cela dure depuis un certain temps dans ce qu'on appelle le chemin Roxham au niveau du Québec. Et là, les autorités québécoises sont un peu débordées. Et elles ont requis l'assistance d'autres provinces, mais le problème commence à vraiment se poser. Donc la question du tiers pays sud, sur cet accord-là vraiment qui a amené beaucoup de réfugiés chez nous, est un enjeu principal pour le Canada.
Il y a eu de nombreux accrochages entre Washington et Ottawa sur la question commerciale. Sur quelle base les deux dirigeants peuvent reconstruire la confiance?
Oui, la question commerciale, surtout un des éléments importants que nous avions, c'est-à-dire que le pipeline Keystone, pipeline qui devait transporter le pétrole brut des sables bitumineux d'Albertien jusqu'aux côtes américaines, est l'élément un peu compliqué et complexe parce que la base électorale justement du président Biden est une base qui a des affinités environnementalistes très poussées. Ils ne veulent pas de ce projet, tandis que c'est très difficile pour que le Canada se prononce contre parce que le gouvernement fédéral a déjà beaucoup discuté avec le gouvernement albertain et c'est un projet qui est extrêmement important pour le gouvernement albertain. Donc ces enjeux commerciaux-là sont là importants, mais on peut quand même dire qu'il y a un certain nombre de convergences purement idéologique entre le président Biden et le premier ministre Trudeau, par exemple sur le caractère multilatéral, sur les accords internationaux et sur le rôle que jouent les deux pays au niveau international.
Monsieur Biden, il se dit aussi que la question de la sécurité à Haïti sera au centre des discussions entre Biden et Trudeau.
du côté américain, quand même, ils ont absolument besoin que le Canada s'engage un peu plus. Et c'est une demande qui est toujours revenue sur le plan purement militaire, et notamment maintenant en Haïti. Parce que l'enjeu, c'est que les Américains ont formellement demandé au Canada de prendre le leadership pour déporter une intervention militaire en Haïti. Le Canada, pour les raisons purement qu'on peut comprendre, n'est pas tout à fait chaud et freine un peu les pieds. C'est sûr que le président américain va un peu insister pour que le Canada s'engage un peu plus en Haïti. Sous quelle forme on va le faire, ça reste à voir.
Joint hier par Jean-Roger Bion, le politologue Serge Banyongen, enseignant à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.